Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, un trio de GG composé de Joël Dagosséry, qui est coach de vie. Nous sommes avec Willy Schran, président de la Fédération Nationale des Chasseurs. Jean-Baptiste Djebari, de la partie aussi, l'ancien ministre des Transports, qui aujourd'hui est à la tête de la société Opium, fabrication de voitures à hydrogène. 11h, à vous de choisir. De quel sujet voulez-vous que nous parlions ensemble au 32-16? De l'amnistie des Gilets jaunes ou de l'explosion des démissions à la RATP? On ne trouve plus, non seulement on ne trouve plus de chauffeurs, mais en plus ils se tirent. On n'arrive pas à recruter et ils s'embauchent.
Celle de Jean Castex.
Il conduit?
Non, mais il va être patron de RATP.
D'accord.
Lui, il a été embauché, ça s'est fait assez facilement. C'est le seul, peut-être, c'est plus simple d'embaucher Jean Castex qu'un chauffeur de bus.
Peut-être qu'il pourrait prendre un peu le cerceau.
En plus, ça lui plairait, je pense.
Jeannot, tu vois, pour montrer un peu
il va falloir prendre la chemise.
Tu as son portable encore?
Oui, bien sûr, on parle encore.
On peut lui envoyer un petit mot, là.
Tu peux envoyer un petit mot à Jean Castex.
Je vais venir dans les grandes gueules.
Voilà.
J'ai même de répondre au téléphone sur l'autre sujet, là.
Appelle.
Je vais faire ça.
On va parler. La grande démission à RATP. Jeannot, est-ce que tu peux...
Mais ne me mettez pas la pression. Je vais faire ça.
Vas-y.
Tu dis comment, Jean? Tu le vois ou tu le tutoies?
Tutoie. On s'apprécie.
Ah oui.
T'es un mec bien, Castex.
Eh bien, sûrement. Vas-y. Et s'il veut intervenir, alors, c'est avec plaisir. Tu dis, c'est peut-être à 11h, si le sujet est choisi. Voilà, qu'il se rende disponible, si jamais les auditeurs téléphone. Veulent qu'on parle de la RATP au téléphone. Et ce serait très bien. Bon, on fait jouer un peu le réseau, vous nous en voulez pas, on a l'ancien ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebari, on était d'accord, on peut utiliser ça. Si tu veux une carte gratuite à la RATP.
Ah, j'aimerais bien, oui.
Tu veux un passe Navigo?
Un passe Navigo.
Les GG font leur course. Bon, en attendant, est-ce qu'on doit arrêter immédiatement le quoi qu'il en coûte? C'est la question qu'on se pose dans les Grandes Gueules.
RMC, les Grandes Gueules.
C'est plus calme, de quoi le traquenard est conçu.
Alors. Il faut que l'argent arrête de couler à flot, c'est ce que dit le chef de mission du Fonds monétaire international pour la France. Il est temps d'arrêter le quoi qu'il en coûte. Faut fermer les vannes.
Oui, parce que le FMI pense que la France doit vraiment commencer dès l'an prochain à assainir ses finances et le projet de loi justement de finances qui est en ce moment voté ne va pas assez loin, c'est ce que dit le FMI. C'est vrai que le gouvernement a multiplié les dépenses particulièrement depuis un an, avec la crise énergétique, et c'est évalué à plus de 2% du PIB de la France. Alors c'est vrai, en même temps, l'effet midi, grâce à ça, la France a un niveau d'inflation plus faible qu'ailleurs. Il faut reconnaître que ça a permis de contenir l'inflation. Alors, c'est vrai qu'on s'en plaint de cette vie chère, mais elle est moins chère chez nous que chez nos voisins, sauf que c'est de l'argent qu'on n'a pas, qu'on emprunte, et c'est donc nos enfants, nos petits-enfants qui devront à un moment donné rembourser cette dette. Est-ce qu'il faut donc dire stop au quoi qu'il en coûte, et notamment peut-être un peu mieux cibler les aides? Et ça, on a beaucoup de mal en France. Regardez la ristourne sur le carburant, on devait la cibler, on n'a pas su faire, donc on l'a accordée à tout le monde, ça a coûté des dizaines de milliards d'euros. On promet de la cibler en 2023, mais on ne sait pas précisément comment. Est-ce qu'il faut cibler les aides? En tout cas, faut-il moins dépenser?
Madame Joël?
Non, mais tu sens bien qu'on est face à un gouvernement qui s'en bat les steaks de la...
Pardon?
S'en bat les steaks.
Oui, s'en bat les steaks.
Bouge pas.
Je m'en bats les steaks de ce que tu racontes. De toute façon, je t'écoute pas.
S'en bat les steaks. Non, mais écoute, même pendant la campagne présidentielle, il n'y avait guère que, je crois, Valérie Pécresse, il me semble, qui en
avec
parlait.
Succès.
Qui en parlait. Oui, mais parce qu'on n'aime pas entendre les sujets douloureux, on veut toujours qu'on nous donne des petits bonbons à sucer. Donc,
elle parlait d'un Macron qui avait cramé la caisse.
Oui, mais alors je ne dis pas que c'est sa faute, mais en tout cas, je sens bien que ce n'est pas notre première préoccupation. La première préoccupation, c'est le pouvoir d'achat, on l'entend bien, mais pour moi,
c'est d'éviter que les gens aient dans la rue aussi.
Oui, bien sûr, mais il y a un moment où on n'est pas à l'abri. Toute France qu'on est, toute puissance mondiale qu'on est, on n'est jamais à l'abri d'une faillite. Enfin, je veux dire, faut avoir conscience quand même que on n'est pas non plus ad vitam aeternam à tirer sur la caisse, etc. Donc, moi, je crois que oui, à un moment, il faut quand même s'intéresser à la dette publique qui avoisine les 3 000 milliards d'euros, je le rappelle, et donc et qui est aussi d'ailleurs indexée sur l'inflation, hein, parce qu'on parle de l'inflation qui est moins forte, mais elle est aussi, il y en a une partie qui est indexée sur l'inflation.
Donc, il faut une prise de conscience.
Oui, je crois qu'il faut en
parler. Mais des Français aussi.
Mais de nous, mais de tout le monde. Enfin, je veux dire, on va pas continuer comme ça.
Donc on va arrêter le quoi qu'il en coûte en Mons, ça risque d'être encore plus compliqué l'année prochaine.
Hein, oui, on a toujours des raisons de quoi qu'il en coûte en Mons. Enfin, je veux dire, ça fait un moment.
Toujours une bonne raison de le maintenir.
Toujours une bonne raison.
Monsieur Willy.
Ouais, moi je pense.
Dans
que
une,
c'est...
toi dans une région qui est compliquée, hein, le Pas-de-Calais.
Difficile, mais moi je pense que c'était très important que l'État le fasse, le quoi qu'il en coûte. Il fallait le faire parce qu'il fallait absolument, je dirais, temporiser un petit peu l'onde de choc qu'a représenté économiquement et surtout socialement les choses. Maintenant. Je crois qu'il faut en sortir parce qu'on pourra pas assister toute la France, toutes les Français, toute l'économie de cette façon-là jusqu'au bout parce qu'à un moment, comme le dit Olivier, il va falloir payer une dette très forte et ça va devenir de plus en plus compliqué. Puis c'est un petit peu, alors si toi tu parles de steak, moi je dis c'est un peu comme le chien qui se mord la queue, on va pas résoudre le problème. On a accompagné. Par contre, faut juste regarder chez nos voisins. Moi qui fais beaucoup à l'étranger, je peux vous dire que si nous on crie que ça va pas,
l'étranger c'est en Belgique, hein, il va c'est juste de l'autre côté.
C'est l'Espagne, c'est le Portugal, l'Angleterre. C'est la Belgique, c'est l'Allemagne. Faut voir le nombre de magasins fermés, le nombre de boîtes qui sont tombées. Ouais. Il faut jamais, on n'a pas le droit de cracher dans la soupe là-dedans. Maintenant, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut en sortir tout doucement parce que ça peut plus durer. On voit qu'on ne sort pas de la crise, donc il va falloir se retirer. Mais progressivement, une sortie brutale, ce sera un choc social pour les gens et économique très important. Mais il va falloir sortir pour revenir effectivement à un équilibre.
Moi, je suis assez d'accord avec
Willy. Toi, t'as participé au quoi qu'il en coûte au gouvernement.
Ouais, mais dans la première partie, moi, je pense comme Willy que c'était essentiel. D'abord, la France.
Pendant le Covid.
Pendant le Covid. Nous, on est globalement, collectivement drogués à la dépense publique depuis 1974. On n'a pas voté un budget en excédent depuis 1974. Et donc, c'est collectif. Et effectivement, il y a une préférence française pour ça. On vote pour des dirigeants qui, à chaque fois, nous promettent d'assainir les finances publiques et qui ne le font pas. Deuxièmement, sur le Covid, on a eu raison de le faire. Il y avait un choc sismique mondial énorme. On a eu raison de sauver l'économie. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui.
Et peut-être qu'on a un peu trop distribué à tout va et qu'on n'a pas suffisamment ciblé.
L'addiction, elle est...
Amortir le choc économique, c'était essentiel, c'est ce qu'on a fait. Relancer l'économie, y compris un peu différemment, plus écologique, plus industriel, ça c'était très bien. Et maintenant, petit à petit, il faut assainir un peu radicalement les finances publiques. Parce que sinon, le risque qu'on connaît tous, les 3 000 milliards d'euros, les taux d'intérêt, ce risque-là va se réaliser. On aura ce qu'on appelle le service de la dette, c'est-à-dire ce qu'on paye chaque année en intérêt de la dette qui va devenir un poste énorme dans l'État. C'est déjà 47 milliards. Enfin, c'est énorme, 47 milliards. Donc on paye 47 milliards d'euros par année d'intérêt de la dette. Et ce truc-là nous empêchera de financer les services publics et on devra faire des régulations politiques énormes sur les pensions, etc. etc.
Et quand tu dis radical, ça veut dire quoi, radical?
Non, mais c'est toujours...
Les mesures radicales, c'est que tu viens de dire ça.
Moi, je pense qu'il y a deux sujets. Pour assainir les finances publiques, il faut recréer la prospérité. On en a parlé plein de fois, c'est l'industrie, c'est l'énergie, tout ça.
Donc là, la croissance va diminuer en 2023.
Et le problème, effectivement, c'est que politiquement, il faut dire où on fait des coupes. Parce qu'on parle de ça.
On le dit jamais.
Donc on dit jamais. Donc on dit, on va faire des réformes. La réforme des retraites, c'est quelques milliards, etc., etc. Là, le FMI dit, vous comptiez baisser les impôts de production, ne faites pas ça, c'est 8 milliards. Donc il faudra faire des.
Oui, sauf que les chefs d'entreprise, ils l'attendent, la baisse des impôts de production. Hein,
ouais, mais en même temps, j'écoutais Attal ce matin, mon ancien collègue à la radio.
Ça redonne de la croissance.
Donc on dit, il faut baisser 8 milliards sur les impôts de production parce que c'est hyper important. Et en même temps, on dit, la France est le premier pays, est le pays le plus attractif pour les investissements de l'étranger. Donc il faut savoir, soit on est le pays le plus attractif, et dans ce cas-là, on a.
Intérêt à baisser.
On a. Oui, en tout cas, visiblement, on est attractif.
Oui,
c'est une bonne nouvelle.
Ça n'a pas empêché d'être attractif malgré les impôts de production.
On avait déjà baissé parce qu'on les avait baissés.
On a beaucoup baissé. C'était très bien, il fallait le faire. Honnêtement, on était plus compétitif. Mais soit on dit maintenant, on l'est. Ouais. On est pays le plus attractif.
Plus besoin de baisser.
Donc, il y a des arbitrages à faire. Est-ce qu'il faut encore baisser de 8 milliards les impôts de production?
Enfin, Emmanuel Macron, il a été élu aussi par les chefs d'entreprise. Hein.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est aussi des promesses électorales.
Mais à la fin, on est une société, une collectivité. Et si à la fin, ça merde pour tout le monde, ça merde pour les chefs d'entreprise.
Mais pardon, quand on dit, parce que tout le monde a oublié. Mais qu'Emmanuel Macron, quand il, en 2017, il promet quoi? La suppression de 150 000 postes de fonctionnaires. On l'a oublié, ça. C'est un truc, on a complètement oublié. Et d'ailleurs, plus personne propose la suppression de postes de fonctionnaires. Au contraire, tout le monde dit, il faut plus de fonctionnaires à la justice, plus de fonctionnaires à la police,
service public,
machin, etc. Mais c'est ça qui coûte cher.
On peut pas.
Pardon.
C'est la parce qu'on en a besoin tous les jours.
Oui, mais Willy, c'était bien gentil, mais c'est ce qui coûte cher à l'État, c'est sa masse salariale, c'est rien d'autre.
Il va faire des coupes ailleurs, il va peut-être pas faire les Jeux Olympiques, ça ira beaucoup mieux, on va déjà gratter 4,4 milliards.
On dit toujours ça, mais on dit jamais où. Mais oui,
moi, je suis désolé, je viens d'un monde qui est un monde rural, peut-être désertique ou peut-être gros plouc pour plein de gens. Ben, ces gens ont le droit aussi à avoir les services publics de l'État. Et même si
là où on n'en avait plus du tout.
Et même s'il n'y a pas d'économie d'échelle logique à les faire, l'État doit assurer les services
doublons,
publics à
les
chaque
triplons,
Français.
Oui, les services publics,
c'est pas que des gens. Les services publics aujourd'hui, on prend le digital, la télémédecine, ça permet de faire plein de choses. Et pour le service public de la santé, ça permet. C'est aussi l'organisation. Quand tu as une disproportion énorme entre les personnels administratifs et les personnels soignants, et qu'on peut les comparer en Allemagne, en Belgique et ailleurs, et que c'est c'est vraiment notamment disproportionné à l'hôpital, et ben il faut résoudre le sujet.
On a
personnel soignant, personnel administratif.
Pour les gens qui voyagent, qui sont français à l'étranger, vous croyez qu'il y en a un qui veut terminer dans un hôpital à l'étranger? Si vous vous sentez un petit peu pas bien, vous vous dépêchez de prendre un avion ou la voiture et de rentrer. On a un service en France au niveau des hôpitaux extraordinaire.
On a des gens qui sont très bons. On a des gens qui sont très bons. Ça veut pas dire
comment on est soigné dans ce pays, c'est extraordinaire. Il faut pas toucher à ça.
C'est deux sujets différents. On a des soignants qui sont extraordinaires. Ils sont hyper bien formés. Peut-être d'ailleurs pendant trop longtemps. Ils sont hyper bien formés. On a pour autant un poids du personnel administratif qui est trop fort par rapport à d'autres pays. Et ça, pour le coup, on ne peut pas penser que le soin en bénéficie. On a une organisation qui ne tire pas profit des innovations technologiques comme la télémédecine. On a une organisation qui ne prend pas en compte correctement les territoires diffus, les territoires les moins denses, les territoires ruraux que tu défends. Donc, bah, je veux dire, c'est pas qu'un sujet d'ETP et de personnel et de main-d'œuvre. C'est aussi un sujet d'organisation. C'est un sujet systémique. Si on ne résout pas ça, et ça marche pour différents services publics. Pour
le on a Francis, impôts, c'est bien. On a Francis qui est avec
les
nous.
Les impôts,
qui,
c'est ce qui marche le mieux.
Qui nous appelle de Moselle. Bonjour Francis.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Chef d'entreprise, bonjour. Secteur des transports, mon cher Francis, bienvenue dans les GG. Alors, on arrête le quoi qu'il en coûte ou pas?
Pour moi, non, puisque si on n'aide pas le transport... Alors, Monsieur Bruno Le Maire vient d'annoncer en fait un soutien aux entreprises pour l'énergie, pour la flambée d'énergie, gaz, électricité. On aide les entreprises qui consomment du gaz et d'électricité, mais pas le transport qui consomme, qui est un grand consommateur de carburant, en fait. Donc non, il faut nous soutenir et nous aider.
Ah oui, donc il faut continuer de faire des chèques carburant, quoi, en fait, Francis.
On ne demande pas, on demande pas des chèques carburant, on demande bien plus que ça. C'est ce qu'on a demandé. On a demandé ça à Monsieur Djebari qui nous a pas reçu.
Ça nous étonne pas maintenant qu'on le connaît.
Tiens. Non, mais d'abord,
j'ai reçu. Monsieur Djebari, vous savez, on n'a pas été reçu par vous, mais
vous êtes dans quelle association? Ah, bon, j'ai reçu tout le monde.
On a été reçu par une collaboratrice qui est Madame Thauvin. Vous la connaissez?
Absolument, Anne, très bien.
Elle est super professionnelle. Elle nous a reçu au ministère du Transport. Elle nous a écouté et elle nous a dit, on peut rien faire pour vous, quoi. Alors, on a demandé un carburant éventuellement professionnel comme les marins pêcheurs. Détaxé, on peut pas, l'Europe veut pas. On demande ça.
Mais on peut avoir la discussion ici, mais entre ce qu'on a fait en droit commun.
Obligatoire, on peut pas, l'Europe veut pas. Bon, l'Europe veut que tuer les petits transporteurs, on est d'accord?
Ah, mais alors, il y a plein de sujets différents là. On a fait plein d'aides dites de droit commun pour toutes les entreprises et les entreprises de transport en ont bénéficié. Il y avait plein d'aides spécifiques au secteur des transports, y compris le transport routier. J'ai reçu tout le monde, donc vous avez été reçu par ma collaboratrice de l'époque, etc. Ouais. Là, il y a un deuxième sujet que vous abordez et je suis en accord avec vous sur le sujet, c'est que vous parlez de l'Europe qui a détruit plus ou moins les transporteurs routiers français. Vous avez raison. Moi, je me suis battu sur ces sujets, notamment de dumping social et fiscal. Donc, vous mélangez tous les sujets en quelque sorte, Francis. Donc, on peut avoir la discussion si vous voulez, mais.
Je sais que je mélange les sujets, mais en fait, le quoi qu'il en coûte, ça vient au carburant et il faut nous aider
le sujet, c'est est-ce qu'il faut poursuivre le quoi qu'il en coûte pour tout le monde et pour toujours? La réponse est non. C'est intenable.
Non, pas pour tout le monde et pour toujours.
Tout le monde, chacun aura une bonne raison de demander la poursuite du quoi qu'il en coûte, Francis.
Oui, mais en fait, il y a d'autres solutions. Pour éviter le quoi qu'il en coûte, c'est de mettre des règles. Donc, si on dit qu'il y a un prix minimum obligatoire en France pour les transporteurs, on ne vous demandera pas d'aide puisqu'on pourra payer notre carburant.
Le problème, Francis, c'est que moi, je pense qu'il faut arrêter ce jeu pervers des aides qui, en fait, on vous donne de l'argent, mais on vous en prend à côté, voire pire, on détruit votre métier via des règles européennes qui n'étaient pas adaptées. Le carburant, c'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire que c'est le produit le plus taxé en France. Il est d'ailleurs plus taxé chez nous que chez tous nos voisins. Donc, on prend énormément. Ah mince, ça augmente, on va redonner de l'argent. Dans ce cas-là, baissons carrément la TVA sur le carburant, et au moins, c'est plus clair. Enfin, tout n'est que... Voilà, c'est un jeu de dupes à chaque fois. Et donc, les Français ne sont pas contents, l'État perd de l'argent, en fait, rien ne va.
On a quand même vécu un truc extraordinaire. On parlait de la Belgique tout à l'heure, moi je suis frontalier, effectivement. C'est la première fois, je pense, depuis qu'on met de l'essence dans des voitures, que les Belges sont venus faire le plein en France.
Mais oui. Habituellement, c'est l'inverse.
Depuis toujours.
Parce que c'est moins cher.
C'est une institution. Ah, voilà. Et là, c'est les Belges qui faisaient la queue dans les pompes.
Et tu trouves que c'est normal que la ristourne finance l'automobile belge? C'est notre argent, c'est de l'argent.
On va pas faire le tri, on va quand même pas venir interdire.
Mais
on est allé faire le
plat.
Mais on est allé faire le plat.
C'est des impôts.
50 ans, on peut quand même pas les virer.
Pardon, mais Willy, tes impôts doivent servir à l'automobiliste belge. Mais on marche sur la tête, excuse-moi.
On fait l'inverse depuis 50 ans, donc on allait quand même pas reprocher aux Belges depuis 6 mois de venir faire le plat en France. Bon, on est allé.
Mais moi, je préfère que mes impôts servent à embaucher une infirmière à un salaire décent que financer l'automobiliste belge.
Je remercie Francis d'avoir été avec nous dans les GG, dans les grandes gueules de la Moselle. On va aller du côté de l'Aube. Ensuite, on sera dans le Loir-et-Cher. On va continuer de discuter de ce que demande le FMI, le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, c'est le grand méchant aussi. Hein. C'est ce sont les grands argentiers, sont ceux qui ont ruiné la Grèce, notamment
qui ont été à la tête du FMI. Mais oui, c'est celui qui vient au secours des pays qui sont plus ou moins en faillite.
Alors, donc je vous disais du côté du Loir-et-Cher, du côté de l'Aube, avec Luc qui est artisan peintre, on a David qui est employé mise en rayon. Est-ce qu'on doit arrêter le quoi qu'il en coûte, fermer tous les robinets d'aide publique qui se sont déversés ces derniers mois? 32-16 pour continuer d'en discuter avec les GG.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, on a un trio composé de Joël Dagosséry, la coach de vie, Willy Schran, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, il vient du Pas-de-Calais. Et nous sommes avec Jean-Baptiste Djibari, l'ancien ministre des Transports, le président d'Opium, la société qui va fabriquer des voitures à hydrogène. On a demandé à Jean-Baptiste d'envoyer un petit message à Jean Castex, aujourd'hui président de la RATP. Il t'a répondu ou pas?
Pour l'instant, non. Mais j'appellerai à la pause.
Il dort peut-être
Jean,
encore.
Non, non, écoute. Non, ça répond à Jean-Baptiste tout de suite.
Non, mais il fait peut-être une petite.
Parce que
grâce à ça.
Pourquoi est-ce qu'on a demandé à Jean-Baptiste de faire un petit message à Jean Castex, aujourd'hui président de la RATP? Parce que dans les sujets qu'on vous propose dans le À vous de choisir tout à l'heure, on a les démissions à la RATP là qui s'enchaînent. Plus personne ne veut conduire des bus. Alors c'est à Paris, mais enfin c'est général hein, quand même. Et ou alors doit-on parler de l'amnistie des gilets jaunes? Et on se dit que si jamais vous choisissez que l'on parle de la RATP, c'est bien d'avoir le patron de la RATP en personne.
Je suis d'accord.
Au téléphone tout à l'heure. Donc montre que t'as encore un peu de réseau, quoi.
L'influence est intacte.
Un peu de
mais
poids.
Jean Castex. Mais allez, pour venir.
Au boulot, quoi.
Bon, oui, en même temps, il doit peut-être travailler, il a peut-être des choses à faire.
Oui, oui, oui.
Est-ce qu'on arrête le quoi qu'il en coûte, David du Loir-et-Cher, bonjour.
Bonjour les GG, bonjour.
Employé mise en raison, mise en rayon, alors. On l'arrête ou pas, ce quoi qu'il en coûte?
Écoutez, pour moi, la chose qui devrait être faite, c'est de cibler, parce que, comme j'ai envoyé dans le message, nous, on est à 2000 euros, on est toujours dans le rouge tous les mois, et pourtant, bon, le chèque énergie nous a fait du bien, certes, mais je pense qu'il faudrait cibler, parce que moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'à un moment ou à un autre, il va falloir rembourser ces dettes.
Oui.
Et c'est ce qu'on va laisser à nos enfants, en fait, parce que nous... Mmh. Pour l'instant, tout le monde de « Oh, bah, faites-moi des chèques énergie, faites-moi des ristournes carburant, etc. » Mais à un moment ou à un autre, ça va clasher. Et en fait, c'est ce qu'on laisse à nos enfants qui m'inquiète le plus. Mmh, c'est le futur. Parce que pour l'instant, tout va bien. Mais un de ces quatre, je pense que tout le monde se plaint plus ou moins aujourd'hui. Mais qu'est-ce que va être demain?
Mais est-ce que c'est pas aussi une façon de gérer, j'interpelle tout le monde, aujourd'hui on gère toujours dans l'urgence. On n'anticipe pas beaucoup les crises, hein. On n'essaie pas de...
C'est la crise quand même, Olivier.
La crise énergétique, je pense qu'on pouvait un peu l'anticiper, mais bon, on l'a pas fait. Le nucléaire, notre parc nucléaire qui est en déclin, c'est quand même la responsabilité politique, hein. C'est pas tombé du ciel. Donc il y a des choses qu'on pouvait anticiper, qu'on n'a pas anticipé. Et donc, en urgence, on dégaine le carnet de chèques pour calmer les colères, pour résoudre les problèmes. Moi, je pense que c'est une façon de gouverner qu'il faut revoir. Alors, ça sera pas visiblement Macron, puisque Macron, il a fait ça pendant 5 ans, on voit pas bien comment il changerait tout d'un coup. Donc, c'est peut-être le prochain ou la prochaine, mais il va falloir faire différemment.
Qu'est-ce que tu dis, Joël?
Mais on n'a pas de visionnaire, faut dire la vérité.
Ben oui.
On a des gestionnaires et
c'est ce qu'avait dit Mitterrand après moi, que des gestionnaires,
plus ou moins
des comptables.
Mais là, vraiment, pour faire les réformes nécessaires et même transformer, enfin voilà, il y a quelque chose de systémique. Il faut un visionnaire, il faut quelqu'un qui voit assez loin. Bon, quelqu'un qui est effectivement, je pensais que ce serait Emmanuel Macron d'ailleurs, quelqu'un qui est effectivement pas trop peur des gilets jaunes, etc. Ce qui reste compliqué, mais il faut vraiment un visionnaire. Et aujourd'hui, t'en as pas. T'as des gens qui te proposent, oui, d'avoir un meilleur pouvoir d'achat à la fin du mois, d'avoir un chèque énergie pour vivre en fait au jour le jour. Mais là, la France, c'est un grand pays. Elle peut pas vivre constamment au jour le jour. Il faut qu'elle te projette quelque part. Et aujourd'hui, il y a pas de projection. Donc, c'est compliqué.
Ouais, je suis assez d'accord. La culture gestionnaire, elle vient du fait qu'on a vécu 20-30 ans d'une croissance un peu molle, d'un peuple et d'un monde en fait assez pacifié, et que d'un coup d'un seul, on découvre que le monde est violent, qu'il y a des guerres, y compris en Europe, en Ukraine, qu'il y a des crises énergétiques hyper violentes. On n'a pas connu ces mondes-là. Moi, je pense que le retour des politiques visionnaires, ça va se faire. parce que l'histoire, elle va cogner brutalement, oui. Et que les gens vont commencer à se rendre compte, vont avoir peur, etc. Et on va vivre, je pense, dans les années qui viennent, des choses compliquées, difficiles. Donc il faudra le retour de la politique et le retour de la vision politique, oui. Et une politique beaucoup moins gestionnaire. Ça, c'est sûr que tu as raison.
Merci à David d'avoir été avec nous, Luc, et du côté de l'Aube. Bonjour, Luc.
Bonjour.
Artisan, Luc.
Oui, c'est ça. Je pense, pour partager les propos de M. Tchebari et de M. Truchot, qu'en fait, c'est une question de logiciel. Le logiciel français s'est complètement cassé. Et en fait, là, ce dont vous êtes en train de parler, ce ne sont pas des aides, ce sont des dons. La France est passée de l'aide sociale et de l'aide aux personnes en difficulté à une politique de dons, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent à tout le monde. On donne de l'argent à ceux qui ne travaillent pas, on donne de l'argent à beaucoup de choses, on donne de l'argent pour l'essence, on donne de l'argent pour l'électricité. Enfin, ça va devenir n'importe quoi. Et donc, quelque part, on donne de plus en plus et on a de moins en moins de recettes. Je suis désolé, moi je suis artisan, ça peut pas marcher. Donc à partir de ce moment-là, il y a un logiciel à mettre en place, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de distribuer de l'argent, il faut arrêter il faut cibler les aides, des vraies aides. On est passé des aides sociales aux dons. Le RSA, pour moi, je suis désolé, je vais faire hurler la terre entière, mais c'est une ineptie. C'est une ineptie parce que quelque part, on a fait croire aux gens que sans rien faire, on pouvait avoir de l'argent. Alors que le RSA, lorsqu'il était très bien ciblé ou lorsqu'il aide une femme, un homme en difficulté sur un accident de la vie, il peut être complètement bénéfique.
Et il doit être provisoire, ça, vous avez raison. Le RSA, au départ, ça devait être provisoire, c'est pour empêcher quelqu'un de basculer complètement dans la pauvreté.
À ce moment-là, vous parlez de la dépense du RSA, mais à ce moment-là, la CSG, ça devait être provisoire aussi.
Oui,
donc, ce qu'il y a, c'est qu'on donne de plus en plus d'argent, nous, la classe moyenne, à tout un tas de choses, et en fait, c'est un peu le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tout l'argent qu'on donne, on ne sait plus où il passe. Avant, le contrat social était simple. Vous aviez un salaire, vous aviez des revenus, vous participiez au bien commun et le bien commun, l'État vous assurait des services publics et tout un tas de choses. Alors d'aujourd'hui, on paye des charges qui sont phénoménales, qu'elles soient impôts, qu'elles soient charges sociales ou salariales ou tout ça. Et après, on vous dit, si vous braillez trop fort, on va vous donner de l'argent. Ça peut pas marcher.
Mais par exemple, prenons votre
cas. Luc, il est très bon dans son analyse.
Oui, mais justement, Luc, vous êtes artisan peintre,
mais
d'accord.
Mais c'est de quoi justement il parle.
Donc, justement, mais je pense que vous aussi, vous avez vu vos coûts qui ont augmenté. On est d'accord.
Alors, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que je vais vous faire des mathématiques pour les nuls. Le truc qu'il y a, c'est qu'à l'époque, quand une entreprise gagnait 100 francs, ou 100 euros, allez, on va dire 100 euros. Alors d'aujourd'hui, quand vous aviez 100 euros, quelles que soient les entreprises, on pouvait avoir une marge bénéficiaire en ayant payé toutes nos charges sociales, matérielles, charges fixes et tout ça. Il pouvait nous rester entre 25 et 40 euros en fonction du métier que l'on pratiquait. Alors d'aujourd'hui, quand vous êtes entre 5 et 10, vous êtes heureux parce que vous avez encore la tête au-dessus de l'eau. Et je vais vous expliquer la règle d'une entreprise simple. Quand vous faites de la natation, si vous nagez en dessous du niveau de l'eau plus d'un certain temps, vous vous noyez. Pour les entreprises, c'est pareil. C'est-à-dire que si elles ne peuvent pas nager au-dessus du niveau de coûts et de bénéfices, à un moment donné, c'est fini. Et là, l'histoire qui va arriver l'année prochaine avec les 100, 150 000, 200 000 entreprises qui vont se casser la gueule, là, après, on pourra reprendre la discussion. Vous allez voir, ça va être
dur. Oui, mais justement, c'est intéressant, Luc, parce que.
Ça va être du sang et des larmes.
Non, mais c'est très bon, Luc. Oui.
Luc, ces entreprises, est-ce qu'on les laisse se casser la gueule parce qu'on se dit que c'est peut-être un cycle, il faut en passer par là, il faut qu'il y ait de la casse, et puis derrière ça se reconstruise.
Alors,
où est-ce qu'on les aide, tous les artisans? Souvenez-vous, quand on a fait la discussion il y a peu de temps, Luc, avec les boulangers, avec les traiteurs qu'on a eu au 32-16 qui disent « moi je vais pas pouvoir tenir si on m'aide pas sur ma facture d'énergie », alors on les laisse se casser la gueule, on les laisse aller au chômage, parce que c'est de l'argent public qui va les aider aussi.
En complément, Alain et Luc.
Je vais rebondir sur un des propos de vos grandes gueules. Je vais vous expliquer. Le logiciel, je vais vous donner une vision, moi. Je vais vous donner un logiciel magique. Vous allez voir. Vous faites.
Comme l'argent.
Vous allez voir. C'est aucun don, rien.
D'accord.
Juste une vision sur le long terme. Toutes les entreprises de moins de 200 ou 300 salariés sur le territoire français, c'est-à-dire toutes les grosses PME jusqu'à la petite TPE comme la mienne, à savoir qui représente à peu près 90 à 95% du panel des entreprises françaises, vous faites un abattement de charges de 30% demain, d'accord ? Avec un cahier des charges obligatoire. C'est-à-dire que sur les 30% que vous retirez à l'État, vous donnez 10% tout de suite aux salariés, vous faites 10% d'investissement pour l'entreprise et vous faites 10% de dividendes pour la trésorerie. À partir de ce moment-là, vous relancerez l'économie au niveau salarial, vous relancerez l'investissement au niveau des entreprises et vous aurez une pérennité au niveau de la trésorerie sur du long terme.
Pas sûr que ça règle le problème de la dette, mais...
tant que vous n'aurez pas fait ça, vous demanderez de plus en plus d'argent aux peu d'entreprises qui vont rester et vous en donnerez toujours de plus en plus à ceux qui n'auront plus rien.
Alors Luc, il y a Jean-Baptiste qui veut réagir.
Luc, c'est plus difficile du coup de faire des propositions que d'être bon dans l'analyse, parce que là vous résolvez pas le problème de la dette, mais moi je suis d'accord avec vous. Et juste sur le sujet, de, je suis d'accord avec vous sur l'analyse de, que malheureusement dans l'économie, des entreprises meurent et se créent. Et juste pour dire ça, pendant le Covid, je crois qu'en moyenne, hors Covid, on a 70 000 entreprises qui font faillite par année. On a eu moins d'entreprises pendant le Covid. C'est dire quand même l'effort qui a été fait par l'État pour amortir les effets de la crise. On a eu moins d'entreprises qui ont fait faillite pendant le Covid que dans une année normale.
Mais ça veut dire que c'est artificiel. C'est artificiel. La vie économique, c'est des entreprises qui meurent et des entreprises qui naissent.
Exactement.
Et donc, on empêche celles qui doivent mourir de mourir, c'est jamais bon non plus pour l'économie.
Et c'est ce que je dis. Voilà. En fait, c'est ma démonstration, c'est qu'on aura une régulation.
C'est-à-dire qu'on a mis de l'argent pour rien à des gens qu'on a tenus, effectivement. En équilibre.
On a différé leur mort.
Ça nous a coûté beaucoup d'argent, alors qu'on aurait peut-être plus ciblé beaucoup mieux les choses.
C'est d'accord, il fallait pas financer les automobilistes belges.
Moi, je défendrai toujours les Belges parce qu'on a piqué leur essence pendant 50 ans. Donc.
Joël.
Non, mais quand on au niveau de l'écologie, on parle souvent de l'environnement, de la planète qu'on va laisser à nos enfants et tout, mais on en parle. Là, un auditeur en a parlé, mais on en parle quasiment plus pour la dette. Moi, j'ai pas envie que ma fille soit pressurisée comme moi je suis dans la classe moyenne. J'ai pas envie qu'elle se dise ouais alors là, enfin moi je suis à mon compte, donc je suis toujours en train de me dire oui alors là il faudrait peut-être que je travaille plus parce que là j'ai les impôts qui vont tomber et puis il y a l'URSSAF etc. Et parce que c'est toujours plus et l'assiette fiscale elle est assez réduite comparée à la population. Donc là il y a un moment où il faut réfléchir et moi j'ai pas du tout envie que ma fille ait une charge fiscale beaucoup plus lourde que celle que j'ai. Surtout, absolument pas. Je veux pas qu'elle vive comme ça.
C'est ce que dit Jean-Baptiste. Il faut expliquer à ceux qui nous écoutent, peut-être qu'on les explique pas suffisamment, c'est que plus on s'endette, plus on devra consacrer l'argent de nos impôts au remboursement de cette dette. Et donc, on aura forcément moins d'argent pour moderniser l'hôpital, pour mieux payer les profs, pour embaucher des policiers. C'est ça qu'il faut expliquer. Et c'est là où le politique ne raconte pas la vérité aux gens.
Tu sais, dans les budgets, enfin, j'ai plus les trucs en tête, mais en gros, l'éducation nationale, ça va être 50 milliards par an, la défense à peu près pareil, etc. Aujourd'hui, le service, donc le remboursement de la dette, c'est 47 milliards.
C'est quasiment un budget.
C'est quasiment un budget. Voilà. Donc, et ça a augmenté de plus de 30% l'année dernière à cause de l'augmentation des taux d'intérêt.
Donc, ça veut dire qu'il y a 47 milliards qui partent uniquement pour qu'on rembourse les intérêts.
Les intérêts.
Vous imaginez ?
Pas le capital, les intérêts.
Mais donc, moi je pense que.
Si les taux explosent, ce que je vais
faire de cet argent.
Ouais, mais le problème, on parlait tout à l'heure de gens, qu'on attendrait des visionnaires, tout ça. On a des gestionnaires aujourd'hui. Moi je pense que.
C'est pas toujours des très bons en plus.
C'est pas que c'est pas bon. Aujourd'hui, on gère deux choses qui n'ont rien à voir ensemble. On gère à la fois l'économie et le social. Ça, c'est déjà une faute majeure. Ce qu'on ne demande pas, c'est des grands visionnaires. On demande juste du pragmatisme, du bon sens.
Oui.
Quand t'as qu'un euro dans ta poche, tu peux pas en dépenser deux. T'en as qu'un.
Oui. Mais il faut quand même une vision de l'État.
Ouais,
parce que,
vision,
tu vois, on parle.
La vision de l'État, est simple. Elle est naturelle et elle se trouve. On la respecte et c'est le cadre à donner. Quand l'État, moi je suis pas d'accord. Quand l'État, bien sûr qu'il y a une vision de l'État. Bien sûr qu'il y a une vision de l'État. On ne s'en rend pas compte, mais nous sommes entourés par l'État en permanence. Et heureusement, d'ailleurs. Donc, il faut respecter ce cadre-là. Donc, on a évoqué d'ailleurs ce matin pour d'autres raisons. Et après, c'est beaucoup plus de pragmatisme. Je pense que l'État doit être un modèle en matière de gestion économique. Comme tu le dis, Jean-Baptiste, depuis 1974, on n'est pas foutu de poser un budget à l'équipe. C'est pas normal.
Oui, mais est-ce que tu te fais...
C'est pas normal.
Alors là, il y a peut-être aussi une responsabilité des électeurs français. Parce que est-ce que tu te fais élire aux gens, il faut mieux gérer. Non. Regarde Valérie Pécresse, elle a dit on crame la caisse. Alors c'est peut-être pas uniquement pour ça, mais elle a fait moins de 5. Est-ce que tu te fais élire avec un langage de vérité ? Je suis pas sûr. Mais parce que les Français, ils ont envie d'entendre qu'on va continuer à leur donner de l'argent.
Je
recoupe
ce qu'a dit Jean-Baptiste tout à l'heure. Je pense que les gens qui seront élus demain, ce seront ceux qui diront totalement la vérité, qui sera une bouche froide. Mais c'est comme ça que ça finira.
Allez, est-ce qu'on doit arrêter le quoi qu'il en coûte ? C'est la question qu'on a posée. On va voir ce que vous en pensez. C'est un oui quand même qui est à 74%. Donc il y a peut-être une prise de conscience aujourd'hui.
Les Français ne sont pas des idiots.
Voilà, de l'argent.
Les Français gèrent un budget.
À suivre dans les GG, dans les grandes gueules, suite et fin de la sélection du Grand Prix des maires de France, que cet après-midi, Olivier et moi irons présenter la cérémonie de remise des prix des maires.
Même ce soir, là, parce que cet après-midi, c'est ce soir.
Parce que cet après-midi, on a des répétitions à faire. Surtout pour moi, parce que ça va être long à mettre en place. Jean-Baptiste.
Il y aura Arnaud Demanche aussi qui sera avec nous pour la touche.
Jean-Baptiste remettra un prix, il me semble.
Oui. Énergie et environnement.
Ouais. Et bien dans un instant.
Et Willy et Joël, vous êtes invités. Hein.
Si ça vous dit pas. Ah, j'y suis après les grandes gueules, mais ce soir j'avais un rendez-vous, je peux pas.
Allez, à tout de suite avec
Joël
les GG.
Sera là.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui dans les GG, Joël Dagosséry, coach Jimmy Willy Schran, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs. Jean-Baptiste Djebari, le président d'Opium, société qui fabrique des voitures à hydrogène. Quelle heure est-il? Il est 10h43, on dit aussi 11h moins le quart. C'est donc l'heure de parler des maires.
Le Grand Prix des maires avec GMF, premier assureur des agents du service public.
C'est l'heure de parler des maires avec José Campel qui est avec nous, qui est conseiller municipal du Lamentin. Bonjour, monsieur Campel.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Mais en direct de Martinique. Bonjour. Avec nous. Quelle heure est-il du côté de la Martinique, du Lamentin?
Il est 5h45.
5h45.
Matinale, monsieur Campel.
On vous a sélectionné aujourd'hui dans le Grand Prix des maires. Parce qu'on voulait mettre en avant l'une de vos initiatives.
Oui, elle est simple, hein. Vous récupérez des ordinateurs qui sont HS à la mairie et vous les reconditionnez pour les distribuer aux familles modestes, c'est ça?
C'est ça, c'est bien ça, tout à fait.
Combien d'ordinateurs vous avez déjà reconditionnés?
On a déjà récupéré 159 unités centrales et près de 112 écrans. Et une centaine de souris et claviers.
Et ensuite, c'est pour les familles qui n'ont pas les besoins de se procurer ce matériel.
Exactement, les familles défavorisées ou les associations ou encore les étudiants dans le besoin.
Comment est venue l'idée?
La genèse de l'idée a démarré dans les cyberbases. Dans le cadre du renouvellement du matériel informatique, on s'est rendu compte que certains matériels mis en rebut pouvaient être réutilisables. Après ce diagnostic, ça représentait approximativement 70% de ce matériel informatique, à savoir les composants informatiques comme les disques durs, etc., les claviers, les souris.
Donc c'est du recyclage, quoi, en fait, c'est ça.
C'est du recyclage.
Au bon sens du terme, quoi.
Ouais. Voilà, recyclage et reconditionnement, parce qu'il a quand même fallu.
Bien sûr.
Les remettre en état.
Mais vous aviez les moyens, vous aviez des équipes pour ça?
Il a fallu recruter. On a recruté deux contrats PEC. Et un conseiller numérique, les deux contrats PEC ont été formés. Donc ça a permis une montée en compétences de ces jeunes-là. Ils ont dû valider ces compétences-là, hein, le reconditionnement de ce matériel informatique-là sur la durée du projet.
Et du coup, ça permet de réduire la fracture numérique dans l'île, alors, en fait, et chez vous?
C'est exactement ça. C'est à trois aspects. Un aspect social, puisque on va les distribuer à des familles défavorisées. Un aspect aussi social, mais en matière d'insertion, puisque ça nous a permis de recruter des jeunes. Et puis, dans le cadre du recyclage et de l'environnement, ça nous a permis de ne pas mettre en rebut du matériel. Et dans le cadre de la facture numérique aussi, de permettre à des familles défavorisées, dans le besoin, de pouvoir bénéficier de matériel informatique.
C'est écolo et social, Joël, en même temps.
Oui, c'est une très très bonne initiative. Je vous mets en concurrence avec le maire de Garges-lès-Gonesse, je crois, qui lui avait fait qui aidait des jeunes sur les soft skills. Donc non, je trouve que c'est une très bonne initiative, surtout que quand t'as pas d'ordinateur, enfin quand t'es pas relié de nos jours, enfin t'es isolé, il faut le dire, la plupart des services, on te demande, même les services publics, hein, d'ailleurs, on te demande de faire des démarches en ligne, et même pour tes enfants, tu vois, moi par exemple, ma fille, tout est sur Pronote, les profs mettent tout en ligne, les devoirs, les machins, enfin je veux dire, si t'es pas relié...
Mais si t'as pas d'ordinateur à la maison, c'est compliqué.
Ça commence à être vraiment, vraiment compliqué, donc vraiment, moi je trouve que c'est une super initiative.
Mais monsieur le maire, est-ce que vous faites des initiations à l'informatique aussi, ou des séances pour ces gens-là?
Ça fait partie d'une deuxième phase. C'est-à-dire que, oui, Au sein des cyberbases, qu'on s'explique, hein, certaines cyberbases se sont transformées en France Service, donc on organise des ateliers, des remises à niveau pour les personnes qui ne savent pas utiliser, qui sont totalement éloignées de tout ce qui est système informatique. Dans un deuxième cadre, on souhaite organiser des ateliers individuels pour que les administrés puissent apprendre aussi à reconditionner même leur matériel.
Ah, c'est parfait. Ouais. Bah, c'est très
bien.
Merci, monsieur Crampel. Merci d'avoir été avec nous, conseiller municipal Lamantin en Martinique, en direct d'Outre-mer. Les
Bonne chance pour ce soir pour le Grand Prix des Mers.
Le Grand Prix des Mers avec GMF, premier assureur des agents du service public.
En direct du plateau 3 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
Monsieur Louis Gerbier, bonjour.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
C'est parti pour le quiz.
Allez, on était en Martinique, on va à Doha, au Qatar.
C'est à côté du monde.
C'est l'actu. Alors aujourd'hui, on est le 23 novembre. Et quel pays a un jour férié?
Arabie Saoudite.
Arabie Saoudite pour la victoire contre l'Argentine.
Bien joué. C'est la bonne réponse.
C'est l'Arabie Saoudite, comme vous l'avez dit, pour leur victoire hier. C'est un truc qui a été décidé hier par MBS. On a gagné.
Et pourquoi nous, on n'a pas un jour férié vraiment... alors qu'on vient de battre l'Australie?
4 ans en plus, c'est une semaine. Un jour par but.
On aurait même pu faire le coup.
On n'a
pas eu quand on a gagné la Coupe du Monde.
Le gars qui avait mis un billet sur la victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine, là, il a pris un peu de blé. Là,
il a pris un peu de monnaie.
J'ai cherché une info, j'ai pas trouvé. En revanche, sur mon petit prono, je sais pas si vous jouez, il y a pas mal de gens qui l'ont trouvé, le 2-1, même pas la victoire, le 2-1. Score exact.
Attends, parce que j'ai entendu Joël dire il connaît pas Hervé Renard.
Ah ouais, le Renard.
T'as un petit kiff pour le sélectionneur de.
Il a fait gagner la CAN à la Côte d'Ivoire.
C'est vrai.
Après avoir fait gagner la Zambie face à la Zambie, il nous avait maltraité. Il avait maltraité la Côte d'Ivoire avec la Zambie, puis après la Côte d'Ivoire l'a pris et a gagné la CAN. Donc voilà, c'est vrai que c'est un. En tout cas, sur l'Afrique, il est vraiment connu.
Le sorcier, le renard.
Exactement. Ah ouais. Il est très apprécié.
On continue, Louis.
Allez, question 2. Toujours au sujet de Argentine, Arabie Saoudite. Quel supporter improbable avait l'Arabie Saoudite dans les tribunes?
L'ex-premier ministre du Danemark, pas du tout.
Non,
c'est autre chose.
Ça, c'est autre chose.
C'est la robe. C'est un politique qu'on n'attend pas du tout avec.
En tant que supporter de l'Arabie Saoudite.
Jean Castex.
Donald Trump.
Non, on s'approche, c'est très politique comme ça.
T'es un Américain ?
Non, mais c'est un voisin de l'Arabie Saoudite.
Canada ?
C'est peut-être même l'hôte.
Ah, c'est l'Arabie Saoudite.
C'est peut-être même l'hôte de la Coupe du Monde.
Qatar,
du coup.
Voilà. Donc vous pouvez le voir sur RMC Story. Il y a même une vidéo où on le voit vraiment agiter le drapeau tout heureux. C'est clairement un geste très politique puisqu'on connaît les relations historiquement très tendues entre les deux pays. Donc ça annonce un réchauffement diplomatique,
que le Qatar a raté son entrée dans la Coupe du Monde. Saoudite l'a plutôt réussi, mais bon, rien n'est terminé.
Voilà, aurait du mal à faire mieux quand même.
Comme quoi cette Coupe du Monde,
c'est pleine de surprises.
Ouais, c'est vrai que la Coupe du Monde c'est pas du tout politique.
Faut pas politiser.
Voir avec la politique.
Tiens, ce matin on parlait déjà de celle de 2026. 2026, ce sera sur 3 pays, Canada, États-Unis, Mexique, et il y aura 48 équipes.
Ouais.
T'imagines le bordel.
On va avoir des matchs passionnants.
Combien de milliers de kilomètres entre les deux extrêmes?
Oh, ça va.
On verra si autant de leçons données sur le plan climatique.
On a les chiffres d'audience?
Allez, on y va.
Et on va encore
l'audience. Le quiz.
Quiz audience. Attends, parce que la question de l'audience, elle est plus loin, mais je peux la faire maintenant. Il n'y a pas de souci, on s'adapte. Quelle audience hier soir pour le match sur TF1?
12 millions.
12 millions?
Plus de 10 millions, c'est sûr, ça peut pas être autrement.
5 millions, 5.
Oh là 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 là, point. 12 millions, bravo Joël.
Combien ?
12 millions.
12 millions, 5.
Ah oui, une auditrice qui lui a envoyé la réponse.
Elle est honnête de le dire.
Je suis apprécié. Je croyais qu'on devait boycotter la Coupe du Monde du Qatar.
Vas-y Jean-Baptiste.
Je croyais qu'on devait boycotter la Coupe du Monde du Qatar. On avait reçu des ordres de Vincent Lindon.
Mais non,
c'est une connerie.
Les gens n'écoutent pas Vincent Lindon, pas toujours en tout cas.
Non. Et bientôt non, Vincent Lagaffe.
Oui, tu as raison, les appels au boycott, c'est bullshit. Parce que je crois que 12 millions 5, c'est quasiment le même chiffre
qu'il
y a 4 ans pour le premier match de l'année.
On ne peut pas boycotter le foot. Enfin, c'est impossible, c'est un sport qui soulève trop d'émotions.
Moi, je suis très rugby.
Ouais, je sais.
Je suis très rugby.
Ouais.
Je vais regarder quand même là.
Parce que le match d'ouverture avait fait 6 millions quand même. Donc quand c'est la France qui joue, ça doit être nettement plus.
Ouais. Et c'est le premier match. Ça va monter en puissance.
Ça va monter.
On enchaîne. Hier, lors du match Danemark-Tunisie, cette fois, quelle particularité avait l'ex-ministre
Elle avait
Danemark.
La même robe que Joël.
Dans l'esprit, c'est ça.
En soutien.
Voilà, on va le voir en photo. Elle avait une robe donc au drapeau arc-en-ciel qui rappelle le drapeau LGBT. Et donc, elle a eu accès au stade quand, dans le même temps, des supporters, disons, lambda, se sont vus empêchés d'entrer avec, par exemple, des bobs multicolores ou autres signes LGBT. J'allais dire, on s'en fout pas des formations professionnelles. On s'en fout pas.
Ça t'a fait beaucoup réagir.
Elle est chouette, ta chemise de chasse, quand même. J'aime bien.
Ouais, elle est sympa.
Oui, alors,
sympa.
J'aime bien.
Je vois bien. C'est bien que t'assumes ça publiquement.
C'est français, ça, ou pas? C'est un chasseur. Il chasse à l'arc, au couteau.
Mais le vrai, on ne sait pas qui est qui.
Dans le bois de Boulogne.
Il y a beaucoup de gibier, il paraît.
Un chasseur. On en était où? Parce que là, vous me perdez avec
les. Il est paumé, il y a eu trois.
À chaque fois, moi, j'ai du mal. Alors, on finit avec le quiz Mbappé Jingle.
Ah, allez.
On finit avec le quiz Mbappé. Jingle.
Qu'est-ce qu'il y a?
Alors,
t'adores?
Le centre, la tête, le but de la tête de Mbappé avec le poteau rentrant, ça fait 3-1.
Ça fait toujours du bien d'entendre Jeannot quand il y a un but. Alors, Kylian a fait un petit TikTok, spécialiste TikTok, on en a un en plateau, Jean-Baptiste Djebari, où il répond à plein de petites questions sur ses goûts, ses préférences. Donc on commence, je vais vous poser la question, on écoutera la réponse en vidéo. On commence facile, qui est son idole?
Pelé?
Non.
Zidane?
Non.
Booba?
Non, c'est un joueur de foot, mais c'est
Ronaldo,
évidemment. Ronaldo, il était fan. On écoute la réponse. Bon, sinon, on vient de la dire.
Ronaldo au foot.
Cristiano.
Voilà, Cristiano. Cristiano Ronaldo, évidemment, pas le Ronaldo.
Pas le Ronaldo brésilien. Tu nous as enduit d'erreur.
Il a 18 ans.
Il y a déjà une génération entre deux.
C'est ça.
Quasiment.
Je vous rappelle à votre âge, avancez.
Bien sûr.
Deuxième question. Quel est son plat préféré?
Des cordons bleus, comme le président.
Non. Et, dire...
Des pâtes.
Ouais, des pâtes à.
Pâtes bolo, carbonara.
Et bonne réponse, on écoute.
Ton repas préféré?
Pâtes carbonara.
Voilà.
Pas avant de jouer.
Un gourmet, oui, non. C'est mieux après. Mais c'est des sucres lents, les pâtes.
Des sucres lents, c'est pas mal.
Oui, pas la carbonara, surtout du sucre. Très lent, quoi.
Oui, très très lent, mais très très lourd. Et on finit avec quelque chose de plus surprenant. On connaît Kiki, tout ça, le jambe de feu, mais il a un surnom qu'on ne connaissait pas. Quel est le surnom de Kylian qu'on ne connaît pas?
On ne le connaît pas.
Kékette.
Le mélange de Kiki et jambe de feu, ça peut faire.
Ça tire de son prénom, quoi.
Oui, c'est vraiment tout proche de Kiki, mais on ne s'y attend pas. Ouais, c'est pas loin. Allez, on écoute.
Kirikou.
Ton surnom.
Kix.
Kix.
Ça va.
Jones. Kix.
Un peu américain. Kix.
On espère que Jambe de Feu les aura encore samedi contre le Danemark à 17h. À vivre, bien sûr, sur RMC.
Dans le train, on s'en fout, mais je vais rater le bas.
Du coup,
on
s'en fout pas.
La radio.
Dans un instant.
Sur RMC en direct.
Avec les GG, un GG, c'était match. On vous attend au 32-16. Le président.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.